France Musique.
Merci à vous Christophe Bourseiller, nous avons hâte de vous retrouver dimanche prochain à 17h sur France Musique.
Les menus plaisirs de Bruno Mantovani.
Chers amis, bonjour à tous et bienvenue dans ces menus plaisirs. Il existe deux types de musiciens. Ceux qui se contentent de composer, de jouer, de diriger, de chanter, soit des artistes à plein temps qui créent des œuvres ou en interprètent. Voilà déjà de quoi remplir plusieurs vies. Mais il y a une autre sorte de ces mammifères musicaux qui ne se contentent pas de dédier leur vie à l'expression personnelle et qui mettent beaucoup d'énergie et d'obstination dans la création ou dans la direction de structures. Des aventuriers, des idéalistes qui ont des utopies auxquelles ils arrivent à donner vie. Ma camarade de jeu du jour fait partie de la deuxième catégorie. Chef d'orchestre, chef de chœur, elle a fondé tout d'abord l'ensemble vocal le plus célèbre de France, à savoir le chœur de chambre Accentus, puis un orchestre sur instruments anciens, Insula Orchestra, avec lesquels elle vient de graver un requiem de Mozart d'anthologie. Puisque j'en suis à définir des catégories, il y a deux types de chefs d'orchestre. Les hommes chefs d'orchestre et les femmes chefs d'orchestre. Le volume numérique de la deuxième catégorie est assez défavorable par rapport au volume numérique de la première, et la chef feu que je reçois aujourd'hui est aussi une femme engagée pour que précisément la situation évolue. Nous écouterons d'ailleurs beaucoup de compositrices et de solistes féminines avec mon invité. Ah oui, il y a une autre catégorie intéressante. Il y a deux types d'interprètes. Ceux qui se consacrent uniquement aux partitions du passé et ceux qui jouent aussi la carte de l'aventure, de l'ouverture, de la curiosité en commandant sans cesse de nouvelles partitions aux compositeurs de leur temps. Ma chère amie qui est avec moi dans ce studio de Radio France aujourd'hui est une interprète moderne qui ne peut se passer de défendre les compositeurs actuels. Une femme chef ayant inventé des structures prestigieuses et défendant tous les répertoires, vous l'avez reconnu, j'ai le plaisir d'accueillir dans cet épisode de mes menus plaisirs mon amie Laurence Equilbé. Bonjour Laurence.
Bonjour Bruno.
Écoutez, je suis ravi de vous accueillir dans cette émission qui sera très vocale, sans s'en douter un petit peu, qui sera très instrumentale, ça aussi on pouvait s'en douter, qui sera aussi très diverse. On a l'impression quand on vous questionne sur vos sources de plaisir, musicaux évidemment, qu'on est en train d'ouvrir un océan d'infini des possibles.
Oui, c'est vrai, d'ailleurs, comme disait l'autre, le plaisir est l'ennemi du bonheur. Hein. C'est-à-dire que j'ai essayé, quand vous m'avez demandé des musiques qui correspondaient au plaisir, d'avoir un éventail assez large, à la fois des œuvres heureuses et qui inspirent de la joie, et puis aussi, qu'est-ce qui nous fait plaisir, nous, musiciens, soit d'interpréter, soit d'entendre dans la vie, à quel moment, justement, se déclenche cette impression d'équilibre intérieur ou de joie intérieure. Ça peut être vraiment très varié, et parfois avec des œuvres aussi très très profondes et très sombres, voilà.
Alors justement, on va passer tout de suite à l'essentiel, à savoir un petit peu de musique et de musique vocale. Un compositeur que l'on peut ou pas porter dans son cœur, mais en tout cas qui n'est pas forcément toujours au programme d'Accentus, on peut le dire, qui est Dvorak. Oui. Et qui est un compositeur pour lequel là, vous avez choisi une toute petite mélodie, extraite d'un cycle qui est le Zigeuner Melody, ici chantée par une chanteuse superlative qui est Anne-Sophie von Otter, accompagnée par Ben Forsberg. Pourquoi ce choix, qui est en plus un choix très, j'allais dire, connoté géographiquement?
Oui, en tout cas, moi j'aime beaucoup l'œuvre de Dvorak. Là, je dois bientôt faire le Stabat Mater, justement, la Philharmonie avec l'Orchestre de Chambre de Paris. C'est un compositeur vraiment plus ou moins méconnu en France. Enfin, j'ai beaucoup, par exemple, dirigé ses poèmes symphoniques qui sont absolument géniaux, notamment Londin, qui est une œuvre fantastique. Et on connaît beaucoup, évidemment, sa Symphonie du Nouveau Monde et on connaît quelques pièces. On connaît aussi moins ses mélodies. Il a écrit des mélodies bibliques, par exemple, qui sont absolument splendides. Et ses mélodies un peu folkloriques. Moi, j'adore aussi le fait que Dvorak a ramené aussi dans l'humeur de son temps, hein, toute cette musique folklorique et traditionnelle, en les mettant vraiment au rang de grande, grande musique. Et j'aime bien la démarche aussi d'Anne-Sophie von Otter, parce qu'elle a justement, parallèlement au grand, grand répertoire, apporté beaucoup de fraîcheur dans les répertoires populaires. Et ce qu'elle fait dans cette musique-là est absolument exemplaire. Et ça, quand j'entends ça, ça m'apporte de la joie, même si la mélodie en soi est relativement nostalgique.
Allez, écoutons cette musique de Dvorak à cette heure tardive du week-end. Voyons si cela, comme disait Pagnol, vous savez, les jours ne sont bons que par leur lendemain. Voyons si cela égaye le fait que nous commençons notre semaine de travail demain. Comment une musique aussi simple que cette mélodie de Dvorak, en apparence, peut être finalement extrêmement complexe harmoniquement, même si on a des cadences parfaites qui sont très claires comme ça, on ne sait pas vraiment dans quel univers on est. On oscille en permanence entre le majeur, mineur, entre les larmes et le sourire. Quelque chose aussi de très élégant dans l'interprétation d'Anne-Sophie de Van Hauteur. C'est un très très joli moment de musique.
Oui, moi je trouve ça toujours très déchirant, puis ce mélange tonal-modal en permanence, et puis cette liberté de ton quand même, hein, parce qu'on est dans un registre plus populaire, et je trouve que Anne-Sophie von Hauteur vraiment interprète ça magnifiquement avec ce pianiste merveilleux, qui est Bengt Forsberg. Et ce disque, je vous le recommande particulièrement, notamment aussi, elle fait tout un cycle de Reynaldo Hahn, un peu de chansons comme ça, nostalgiques, et vraiment, c'est un très bel album.
Ce qui est intéressant, c'est que le plaisir, ça vient aussi de, je dirais, de la distance par rapport à des références. On n'a pas forcément les références de musique populaire qu'écoutait Dvorak quand il a écrit cette musique-là, mais même si cette fibre patriotique, pour nous, n'est pas très signifiante, le produit fini qu'est cette mélodie, lui, devient signifiant. Il y a quelque chose de très beau dans le jeu par rapport à ce qu'on connaît et ce qu'on ne connaît pas. Et cet effet de surprise qui, pour moi, est une des grandes sources du plaisir en musique.
Oui, c'est vrai. Mais d'ailleurs, moi, ce que je trouve vraiment émouvant dans cette démarche, qui était une démarche quand même authentique au début du 19e siècle, c'est d'aller chercher la langue des peuples. Et ça, c'était une démarche éminemment romantique. Et c'est vrai que c'est incroyable tout ce qui a pu sortir de la ruralité, de tous ces milieux, de tziganes, etc. Et c'est fantastique de se dire que la musique classique a profité complètement, pleinement au 19e siècle de tout ce mouvement.
Alors on va passer de la ruralité au salon, de la voix au piano, mais j'allais dire de la vocalité vocale, pardonnez l'expression, à la vocalité pianistique avec Frédéric Chopin et le mouvement lent du deuxième concerto pour piano.
Oui, alors il se trouve que je m'intéresse beaucoup à ces concertos en ce moment parce que je dois les faire bientôt avec une jeune pianiste, avec l'Insel Orchestra. Et donc, j'ai réécouté cet enregistrement de Timmerman qui a travaillé des semaines et des semaines avec un orchestre constitué exactement pour l'occasion, que des Polonais qui ont travaillé comme des fous. Il a obtenu quelque chose d'incroyable dans ce concerto. Et il se trouve que j'avais aussi dans ma liste amené un concerto de Clara Schumann, le deuxième mouvement, parce que je tenais à faire entendre ma chère amie disparue, Brigitte Anguerrer. Et après, je me suis aperçue que ce deuxième mouvement du deuxième concerto, c'était finalement, bon pardon, c'est assez triste en matière de plaisir, mais c'était le dernier morceau qu'avait joué Brigitte à son concert des Champs-Élysées où j'étais, et que finalement la dernière note qu'elle a jouée dans sa vie, c'était ce mouvement lent de ce concerto de Chopin qu'elle avait joué en bis. Et du coup, je me suis dit, tiens, comme je m'intéressais à ce concerto en ce moment, qui avait ce disque de Brigitte, je me suis dit, amenons tout simplement ce mouvement de concerto de Chopin.
Alors, on écoutera Clara Schumann un peu plus tard, mais tout de suite, c'est Christian Zimmermann en tant que chef et que soliste dans ce deuxième mouvement du deuxième concerto de Chopin.
Thank you.
La gouaille méditerranéenne qui peut me caractériser quelquefois a trouvé sa limite après l'écoute de ce deuxième mouvement du deuxième concerto de Frédéric Chopin par Christian Zimmermann et le Polish Festival Orchestra, d'orchestre sur mesure pour le maestro, qui arrive à nous faire créer un sentiment d'attente perpétuelle. On a l'impression aussi que tout est important là-dedans. Il n'y a pas de, comme chez certains jeunes pianistes que l'on ne citera pas actuels, vous savez, Laurent, ce côté, tiens, il y a des petites notes et des grandes notes. Là, il n'y a que des grandes notes dans cette version.
Ah oui, on est vraiment en suspension avec Christian Zimmermann. Il a vraiment une incantation absolument fantastique. Moi, j'aime énormément cet artiste. Et je veux dire que dans ce concerto, qui a une dimension parfois un petit peu sentimentale, on peut le dire, hein, sans que ça soit trop péjoratif, mais je trouve qu'il le porte vraiment au nu.
Oui, écoutez, le sentiment n'est pas interdit du plaisir, donc on ne va pas faire une grande dissertation là-dessus. On en parlera avec un philosophe du plaisir dans quelques émissions. On va faire un petit peu la synthèse de ce qu'on a déjà écouté, la musique vocale, la musique pianistique, un concerto. Mais on va faire un mélange de tout ça. Et on va convier notre cher Ludwig van à nous rejoindre dans cette fantaisie pour piano, chœur et orchestre, opus 80, qui est une pièce extrêmement étrange, extrêmement hétéroclite, et en même temps un mouvement de musique qui est assez irrésistible.
Oui, alors en fait, pardon, j'ai amené des œuvres que j'ai dirigées il n'y a pas très longtemps, mais parce que, comme disait Casals, quand on lui demandait quelle partita de Bach il préférait, il disait toujours celle que je suis en train de travailler. Et c'est vrai que là, quand vous m'avez demandé un petit peu des morceaux, c'est des morceaux que je viens de faire et j'adore. Et donc, c'est vrai que cette fantaisie, en tout cas, dans sa forme, moi j'adore les libertés formelles en général, c'est pour ça que j'aime beaucoup diriger aussi les poèmes symphoniques, etc. Cette fantaisie, elle est tellement aussi dans la fraternité universelle, elle est précurseuse donc de du thème de la 9e symphonie. Et donc, il y a énormément de joie dans cette musique. Et je trouvais qu'en cette époque troublée, c'était important d'amener une pièce comme ça.
Alors, ce ne sera pas vous que nous écouterons, puisque c'est la règle du jeu de cette émission. Les artistes amènent des œuvres dirigées par leurs collègues. Mais ça sera Pierre-Laurent Aymard au piano, le Chamber Orchestra of Europe et le chœur Arnold Schönberg, dirigé par Nicolas Hardencourt.
Doch der Küster Friedrichsson, der
C'était donc la Fantasy opus 80 pour piano, chœur et orchestre de Ludwig van Beethoven par Nicolas Sardancourt comme chef d'orchestre, Pierre-Laurent Aymard comme pianiste et leurs camarades de jeu habituels qui sont le chœur Arnold Schönberg et le Chamber Orchestra of Europe. Donc nous étions là en pleine vocalité, en plein jeu instrumental. Vous parliez de la jubilation que vous aviez à diriger ce genre de musique. Est-ce que le plaisir de l'auditrice que vous êtes aussi est très variable selon que vous avez ou pas dirigé les partitions ?
Ah oui. Bah, j'adore découvrir des œuvres à la fois sur partition, en disque, etc. Je suis très, très friande de choses inédites et c'est très important, je crois, comme on dit souvent que le temps fait le tri entre les œuvres, mais si les œuvres sont pas elles-mêmes dans le tamis, le temps a du mal à faire le tri. Et donc, je crois que c'est très important de faire monter comme ça des œuvres pour les faire entendre, les faire jouer. Et c'est vrai que à l'audition, en tout cas, de cette œuvre, moi, elle m'a toujours rendue vraiment dans une joie irrésistible et je pense souvent que effectivement, je ne sais plus qui disait ça, mais je crois que c'est Oscar Wilde, mais qui disait que seule la joie et non pas l'acceptation de la tristesse peut apporter la paix. C'est vrai que la joie peut apporter la paix, et donc on parle de plaisir. Je pense que la paix est vraiment le plaisir le plus fort qu'on puisse imaginer.
Alors, il y a une chose, quand on travaille avec vous en tant que musicien, ce qui m'est arrivé un certain nombre de fois dans ma vie, qui est absolument remarquable, c'est lié aussi à votre pratique de la direction de chœur, c'est votre sens de la respiration, le sens de l'articulation et qu'on ressent même quand vous dirigez de la musique purement instrumentale. Quand je dis qu'on le ressent, c'est en tant qu'auditeur, mais même en vous regardant diriger, il y a toujours ce côté, on a l'impression que le système respiratoire et les mains sont reliés chez vous, ce qui est sûrement médicalement une chose qui serait une catastrophe, mais qu'en tout cas musicalement, qui est plus qu'admirable. Et je me suis souvent demandé pourquoi vous ne dirigez pas plus de ballets ? Et je dis ça pas uniquement pour faire la transition avec le ballet des ombres extrait d'Orphée et Eurydice de Gluck que nous allons écouter, mais parce qu'il y a chez vous cette capacité précisément à relier le geste et l'intention musicale.
Ben oui, c'est gentil de dire ça, mais moi j'adore le ballet. D'ailleurs, j'ai fait un ballet avec Marie-Agnès Gillot, là, il y a 2 ans, avec des musiques de Bruckner, curieusement, et de Morton Feldman. Donc, c'est pas forcément des musiques très dansantes, mais enfin, en tout cas, c'était un très beau projet qui s'appelait Sous Apparence. Et c'est vrai que je volontiers en faire plus, parce que c'est vrai que cette respiration des danseurs, je la comprends bien. J'aime beaucoup l'architecture des pièces et les carrures, et j'aime beaucoup surtout les relations entre les arts et la scène. Et je pense qu'une conversation entre justement un chorégraphe et un musicien pour montrer les grandes architectures, c'est ça qui est très très vraiment palpitant, et cette respiration commune, volontiers en faire plus, donc voilà, merci.
Donc on va écouter cet extrait d'Orphée Eurydice de Gluck avec ce ballet des ombres, ici dirigé par John Elliott Gardiner à la direction de l'orchestre de l'Opéra de Lyon. Thank you. Un petit moment de grâce avec cet extrait de l'Orphée et Eurydice de Gluck par l'Orchestre de l'Opéra de Lyon, dirigé par John Eliot Gardiner. Là aussi, on est quelque part entre vocalité et musique instrumentale. C'est vraiment la thématique de l'émission d'aujourd'hui, cher Laurence.
Oui, alors moi, j'adore ce moment dans l'opéra. C'est un opéra Orfeo de Gluck, Orfeo Eurydice. D'ailleurs, je dois bientôt le faire avec Franco Fagioli, là, et c'est un opéra que j'aime beaucoup, qui est un des grands jalons dans l'histoire d'opéra. Et c'est le moment où Orphée arrive aux Champs-Élysées, donc au paradis qui est dans les enfers, mais qui est donc ce paradis où il va chercher sa femme Eurydice qui est morte. Et d'ailleurs, elle est morte, bon, c'est rarement qu'elle est morte piquée par un serpent qui est en fait un de ses anciens amants déguisé en serpent. Hein, donc,
méfiez-vous des serpents, surtout si ce sont des anciens amants.
Voilà. Mais c'est vrai que j'adore ce siècle parce qu'il invente beaucoup de choses, l'électricité, les droits de l'homme, la légèreté, l'amour, tout ça. Enfin, c'est un siècle vraiment bouillonnant et Gluck, là, il invente un nouvel opéra où justement il refuse. L'histoire de la musique a passé son temps à aller dans les moments très très technique et très très savant, et puis la simplicité, etc. De siècle en siècle, on peut refaire l'histoire comme ça avec ces montagnes russes. Et là, en tout cas, c'est un moment de l'histoire d'opéra où on dit stop aux excentricités, on veut comprendre le texte, on veut comprendre le drame, et cet opéra est vraiment exemplaire. Et il y a des moments de plaisir. Juste après ce ballet, il y a un des chefs-d'œuvre de l'histoire occidentale de la musique, c'est l'entrée justement aux Champs-Élysées avec une musique inouïe, dont je vais faire d'ailleurs un clip bientôt, parce que je trouve que c'est un moment d'apesanteur, et que quand on ressent l'apesanteur dans la musique, c'est quelque chose d'assez extraordinaire.
Oh, et puis toujours jouissif de se rendre compte que les grands révolutionnaires de l'opéra français dans l'histoire étaient Lully, Meyerbeer, Gluck, Spontini, Rossini, de très bons Français de souche, hein. Comme chacun sait. Bien, après ce petit moment de grâce, nous allons écouter l'extrait que vous aviez annoncé beaucoup plus tôt dans cette émission, c'est-à-dire un extrait du concerto pour piano de Clara Schumann, ouais. Femme compositeur, femme d'eux aussi, mais femme compositeur, musicienne exceptionnelle, et en plus servie par cette musicienne que nous aimions tellement. Et vous et moi, chère Laurence, qui est Brigitte Ungerer.
Oui, alors peut-être on dit un petit mot sur Clara Schumann, parce qu'il se trouve que j'ai passé presque mon temps de Noël, je ne dis pas vacances de Noël, parce que je dirigeais avec Gewandhaus, mais à Leipzig. Donc j'ai pu aller chez Mendelssohn, chez Schumann, évidemment chez Bach, et je me suis réintéressée notamment à Fanny Mendelssohn, dont je dois faire une ouverture bientôt, et à Clara Schumann, à toutes ces femmes un petit peu de l'ombre. Et Clara, elle a quand même pu faire une carrière de concertiste et de virtuose, hein, mais son père s'était complètement opposé à son mariage avec Schumann. Enfin, ça a été jusqu'aux tribunaux. Mais je suis très, très attachée à rejouer ces musiques de ces femmes, parce que d'abord elles ont été vraiment presque des héroïnes de pouvoir se faire éditer en son temps. Et par exemple Fanny, la sœur de Félix Mendelssohn, était très très douée, quasi plus douée que son frère quand ils étaient jeunes, et son père a dit bon ben Félix va en faire son métier, mais toi tu en feras pour ton plaisir. Et cette pauvre Fanny est morte d'une attaque cérébrale assez jeune. D'ailleurs son frère l'a suivie 6 mois plus tard, ils s'adoraient et elle avait énormément de talent, Clara aussi, et je trouve vraiment un petit peu un désastre que toutes ces créatrices, je dirais, je les engloberais même avec les auteurs féminines, les autrices et toutes les créatrices. Il y en ait si peu qui soient, en tout cas pour ce qui existe, mis dans les programmations. Donc j'essaierai de m'y attacher moi-même, et j'étais très heureuse justement d'amener ce mouvement lent du concerto de Clara Schumann.
Alors en dehors du militantisme, si je puis dire, que vous évoquez dans la défense de ce répertoire, c'est en plus la très 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 belle musique. Ouais. Surtout sous les doigts de Brigitte Ungerer, accompagnée ici par l'Orchestre de Cannes, dirigé par Philippe Binder. Thank you. Brigitte Ingerer et son son absolument enchanteur. Philippe Kocher est au violoncelle, violoncelle solo de l'orchestre de Cannes, qui a été dirigé assez peu dans ce deuxième mouvement, mais qui est beaucoup plus en premier dans le troisième, par Philippe Bender. C'est toujours avec beaucoup d'émotion qu'on retrouve notre chère Brigitte, avec laquelle vous avez beaucoup joué,
oui,
notamment Liszt.
Oui, avec elle, j'adore son son de piano, j'adore aussi son, son chant. Elle avait un rubato inimitable, et vraiment, c'est une très très grande artiste qui nous manque beaucoup.
Absolument.
France Musique.
Changement de décor, cette fois-ci, avec de la musique, j'allais dire, purement instrumentale, mais toujours narrative. Vraiment, Laurence, on ne vous refera jamais. Il faut qu'il y ait un argument, il faut qu'il y ait quelque chose à dire, jusque dans vos choix d'auditrice.
Les choses abstraites aussi. Hein.
Mais aujourd'hui, tout de même, on est vraiment dans l'histoire que l'on raconte. Une histoire instrumentale, cette fois-ci, j'allais dire, d'un tube, pour parler vulgairement, de Maurice Ravel. Pas le boléro tout de même, mais Daphnis et Chloé, le début de la deuxième suite, le lever du jour, c'est pas tout à fait l'heure, en ce dimanche à 18h, mais on va dire qu'entre l'aube et le crépuscule, il doit y avoir quelque chose de commun au niveau de la lumière. Je suis étonné que dans toutes ces œuvres aussi originales que vous nous amoniez, de trouver ce highlight, comme disent les anglo-saxons,
oui,
de la musique d'orchestre.
Ça, c'est un petit plaisir que je me fais, parce que je me rappelle très bien, d'ailleurs, de cette pièce, la première fois de ma vie où je l'ai entendue en live, parce que je médite beaucoup aussi pour qu'on écoute les œuvres en live, c'est très important. À l'époque, j'étais étudiante à Paris et je n'avais pas trop d'argent. J'étais dans une petite chambre d'étudiante et j'allais souvent à Pleyel en deuxième partie, parce qu'à l'époque, on arrivait à rentrer en deuxième partie gratuitement, quoi, en se faisant passer pour le public de la première. Et donc j'ai écouté beaucoup de concerts comme ça en deuxième partie de concerts à Pleyel. Et je me rappelle de Ozawa dirigeant ce Ravel. Et c'était peut-être, je devais avoir 19 ans, enfin c'était un de mes premiers grands concerts de symphonique, quoi. Ça devait être l'Orchestre de Paris sûrement. Et ça a été un choc parce que je trouve que d'écrire comme ça une montée de mouette avec seulement des instruments, quand j'avais cet âge d'étudiante, ça a déclenché beaucoup. J'étais déjà musicienne étudiante, mais ça a redéclenché cet amour de l'orchestre, cet amour du grand répertoire. Et voilà, donc c'est, comme on est pour le plaisir, c'est un de mes plaisirs de vous faire écouter ça.
De toute façon, on a le droit aussi d'avoir des œuvres qui sont irrésistibles, quel que soit le moment où on les écoute, quel que soit, je dirais aussi, le moment de notre vie, parce que cette musique de Ravel qui est tellement premier degré quand on l'écoute, qui vous prend tout de suite, qui que vous soyez, quelles que soient les circonstances, quand on met son nez dans la partition et qu'on voit la complexité d'écriture, on se dit que justement cet équilibre entre quelque chose de très accessible et pourtant une science qui est absolument incroyable, eh bien ça fait aussi partie de ce qui est pour moi la grandeur de la musique. Je ne sais pas si le service d'ordre de la Philharmonie de Paris va permettre à des étudiantes d'entrer quelque peu litigieuse dans cet établissement pour écouter Ravel. Ici, en tout cas, ça sera l'orchestre de la radio de Bavière dirigé par Marie Sjansons. le cérémoniel du concert classique a ceci de, quelquefois de, d'un peu intimidant, qu'on ne peut pas se lever, crier et applaudir pendant que la musique est jouée, contrairement à la variété ou au jazz. Mais j'avoue qu'on a envie de crier en écoutant cette œuvre et de se lever.
Bisser immédiatement. D'ailleurs, il le faisait jadis. Hein. Il bissait des ouvertures alors que l'ouvrage n'était même pas encore fini. Oui, c'est vrai que c'est, quand on entend ça, on est soulevé de sa chaise.
Et puis on se dit que les compositeurs hollywoodiens de musique de film ont eu vraiment... un grand papa qui n'a pas beaucoup écrit pour le cinéma, c'est le moins qu'on puisse dire, mais qui quand même a donné toutes les cartes pour pouvoir le faire à d'autres.
L'orchestration est fantastique, indépendamment de l'idée musicale, l'orchestration est prodigieuse.
Et un tel... C'est un petit peu comme dans cette progression inexorable du boléro, où finalement on se rend compte qu'il ne s'agit pas de partir doucement et de finir fort, mais c'est souvent des on retombe, on repart, on redescend, on remonte. Il y a quelque chose comme ça, une stratégie du crescendo chez Ravel, qui est quelque chose d'absolument extraordinaire sur le plan de la composition pure. On va finir cette émission, chère Laurence, en écoutant un petit peu de musique vocale, un Alléluia, alors c'est pas que je me réjouisse particulièrement que l'heure en votre compagnie soit finie, et puis on va peut-être faire une petite exception à la règle qui est imposée dans cette émission, c'est qu'on va vous entendre diriger vous-même un Alléluia extrait d'une cantate de Dietrich Buxtehude que vous avez enregistrée avec, évidemment, Accentus et le Concerto Köln.
Oui, c'est ça, c'est un petit plaisir de fin d'émission, parce que je sais que les auditeurs aiment bien cette pièce, et c'est vrai que pour cette musique-là, Buxtehude ou Bach, je suis souvent avec les compagnies allemandes, que ce soit Concerto Köln ou Akademie für Alte Musik de Berlin, et j'aime beaucoup travailler avec ces musiciens, avec Insula, je suis plus pour le 18e et puis le pré-romantisme. Et en tout cas... Bach adorait Buxtehude, il a fait de nombreux kilomètres à pied pour travailler avec ce maître de l'orgue et ce maître de la composition. Et je trouve que dans cette cantate, cet Alléluia, quand on l'entend, on a l'impression qu'il est tout de suite prêt pour être remixé, ou parce qu'il y a des idées rythmiques, il y a des idées de... C'est joyeux et c'est aussi beaucoup d'humour. Et je trouve que dans la musique sacrée, parfois, c'est quand même assez savoureux.
Nous vous écoutons diriger le Concerto Köln et Accentus dans cet Alléluia de Buxtehude. Oh. Un titre très original pour cette œuvre, puisqu'il s'agit d'un Alléluia, vous l'avez compris, de Dietrich Buxtehude, dirigé par Laurent Sequilbé, qui était avec ses petits camarades d'Accentus et du Concerto Köln. Merci beaucoup, Laurence, pour avoir passé cette heure avec nous. Merci d'avoir partagé ces menus plaisirs aujourd'hui consacrés à Laurent Sequilbé. Merci à toute mon équipe. L'attaché de production était Annie Comier. L'ingénieur du son était Olivier Dupré. Quant à la réalisation, c'était Éric Lancien. Dans quelques minutes, après les communiqués et le journal de 19h, vous pourrez poursuivre votre soirée sur France Musique avec Édouard Fauré-Colfuti et ses carnets de voyage. Quant à moi, je vous retrouve dimanche prochain pour de nouvelles aventures. Passez une belle semaine. Au revoir.